إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم. وبعد، مشايخ ورسول، كون vous l'avez découvert, le thème de cette conférence, de cette intervention, tournera autour de la sunna, al-sunna al-nabawiyya, al-mutahara. Tournera autour de l'importance de la sunna prophétique. Et vous n'êtes pas censé ignorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un but très noble. Ce but qui est celui de l'adoration, al-ibada, al-ubudiyya. Comme l'atteste subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Voilà le but ultime, le but sublime pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés tous et toutes, qui est son adoration subhanahu wa ta'ala. Nous devons également savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé les êtres humains dans l'errance, dans l'égarement, mais il a envoyé des prophètes et messagers pour leur montrer comment adorer. Comment l'adorer, subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jal a fait cela sous une forme interrogative lorsqu'il dit « Ayahsabu l'insan en yutraka suda » L'homme, l'être humain pense-t-il qu'il sera délaissé, qu'il sera créé, ensuite il sera délaissé, sans savoir vraiment, sans savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui? L'imam le Mufassir, al-Shawkani rahimahullah, l'exégète du Coran, Shawkani dans son tafsir, dénommé Fathul al-Qadir, parlant de ce verset, « Ayahsabu l'insan an yutraka suda » L'individu, l'homme croit-il qu'il sera laissé dans l'errance, qu'il sera délaissé à son propre compte? Il dit « Hamalan la yu'mar wa la yunha, la yuhasib wa la yu'aqab » C'est-à-dire, l'imam Shawkani lui dit concernant ce verset, il dit « L'être humain croit-il qu'il sera laissé, abandonné, dans l'errance, il ne sait pas ce qu'il doit faire, la yu'mar ou la yunha, il ne reçoit aucun ordre et aucune interdiction, la yuhasib ou la yu'aqab, il ne lui sera pas demandé des comptes, yawm al-qiyama, il ne sera pas puni. » En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour ce but justement de leur montrer, de montrer aux humains comment l'adorer subhanahu wa ta'ala. Ce qui a fait cela, c'est sa parole subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا des messagers, nous avons envoyé des messagers مبشرين ومنذرين qui annoncent la bonne parole mais qui sont également des avertisseurs لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل afin que les êtres humains n'aient pas d'excuse à l'encontre de leur créateur subhanahu wa ta'ala يوم القيامة afin qu'ils ne disent pas يوم الحساب يا ربنا tu nous envoies personne, nous n'avons vu personne, nous n'avons reçu aucun message. Et bien sûr, le dernier des messagers, le plus noble d'entre eux, qui est Muhammad ibn Abdullah, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Avec la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les prophéties sont clôturées. Les prophéties sont clôturées. Le message de l'islam est complet. Il ne reste qu'à suivre. « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. وأتممت عليكم نعمتي. Et j'ai également parfait ce bienfait qu'est l'islam. ورضيت لكم الإسلام دينا. Et j'ai agréé pour vous comme religion, comme voie, l'islam, l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas d'autres religions, d'autres voies que celle-ci. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. La religion qui est agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Et celui qui souhaite ou qui veut suivre une autre voie, une autre religion que l'islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Et faire attention ici au style arabe, l'uslub al-arabi, فَلَنْ لَنْ لِلْتَأْبِيدِ. Le mot l'un veut dire définitif, une négation définitive. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Il ne sera jamais accepté de lui cela. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il fait partie dans l'au-delà, il fait partie dans l'au-delà des perdants. Ce dernier messager que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que nous devons suivre, que nous allons découvrir en parlant de sa sunnah. Car parler de sa sunnah, c'est parler de sa personne. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Ce noble prophète réunit certaines caractéristiques, une série de caractéristiques. Je ne vais pas les dénombrer, mais je n'en citerai que quelques-unes. La première de ces caractéristiques, c'est qu'il a une miséricorde pour l'humanité tout entière. Rahmatul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala atteste dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité, pour les morts, pour les djinns et les humains. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour tout un chacun d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également parmi les caractéristiques qu'on lui retient, As-Siraj al-Munir. C'est une lanterne éclairante. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أوشك قفات إنا أرسلناك متضعفيه كم تموى والمالكي ومبشرا كم أنوسياتور دافه ونذيرا كم أغسطيسور وداعيا إلى الله بإذنه. Et tu prêches dans le sentier de ton Seigneur بإذنه par son autorisation et son agrément وسراجا منيرا. C'est une lanterne clairvoyante pour celui qui la suit. Également, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est doté d'un noble comportement, d'un comportement sublime. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes doté d'un noble comportement. Alors imaginez-vous que si l'un d'entre vous, par exemple, dit à son frère, si l'un d'entre vous dit à son frère, ou vante les qualités de son frère en disant « Ce frère, il a un bon comportement. »« Dhu khuluqin hasan. » Certainement, cette personne qui recevra cette qualité se sentira certainement honorée à cette remarque. Que dire alors lorsque cela vient, ce témoignage vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de sept cieux. Il témoigne pour cet homme, Muhammad, en lui disant « Innaka la'ala khuluqin azim. » Tu es certes sur un noble comportement. Et également, parmi ces caractéristiques, salawatu rabbi wa salamu alayhi, c'est que notre guidance, al-hidayah, dépend de notre obéissance à sa personne. Notre guidance, al-hidayah, dépend de notre obéissance à sa personne, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, wa in tuti'uh tahtadu. Wa in tuti'uh, si vous lui obéissez, vous serez certainement guidé. Dans son obéissance, il y a la guidance parfaite. Pour ceux et celles qui cherchent la guidance et le hidayah, qu'Allah soit à l'agré de nous tous. Et c'est pour cela qu'il faut rappeler que dans l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la réussite. Il y a avant tout l'aide al-Rahman, l'agrément du miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Il y a al-fawz bil jinan, nous gagnons le paradis. Dans sa désobéissance, dans le fait de lui tourner le dos, et de ne pas prêter attention à son message, à sa sunnah. Qu'est-ce qu'il y a? Al-wukuf al-niran. Tomber dans le feu. Wal-iyadu-billah. Toute la réussite pour le croyant, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le démontrer dans ce qui va suivre. Donc nous devons savoir que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un choix, laissé à chacun d'entre nous. L'obéissance n'est pas un choix, n'est pas une chose facultative, mais c'est une obligation, fard. Allah subhanahu wa ta'ala témoigne lorsqu'il nous dit « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Il n'est pas permis pour un croyant et une croyante « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala et son message décide de quelque chose أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ s'il dit le choix. Pas du tout. L'obéissance au prophète, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est une marque de notre engagement envers vie d'Allah Azza wa Jalla. C'est une marque de notre adhésion à cette religion agréée par Allah et l'Islam. Et lorsque nous nous référons au Coran, au Coran, nous voyons qu'Allah relate dans de nombreux versets. Dans de nombreux versets, Allah relate l'obéissance au prophète. Et il y a trois types de versets qui nous relate cette obéissance à sa personne. Salamatu Rabbi wa salamu alayhi. Mais avant de passer à ces versets, je voudrais juste faire allusion à ce hadith rapporté par le Bukhari et le Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Kullukum yadkhulul janna illa man aba » Vous entrerez tous au paradis, sauf ceux qui refusent. Agit. Y a-t-il quelqu'un parmi les croyants et les croyantes qui refusent d'entrer au paradis? Subhanallah, quelle question. C'est pour cela que les compagnons furent étonnés. Les compagnons furent étonnés de la réflexion prophétique. Vous entrerez tous au paradis, sauf ceux qui refusent. C'est là qu'ils lui ont dit, wa man ya aba ya Rasulallah. Ya Rasulallah, qui refuserait-il d'entrer au paradis? Qui parmi nous refuserait-il d'entrer au paradis? Quelle est sa réponse? Man ata'ani dakhala al-jannah. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى مَنْ أَطَعَنِي celui qui m'obéit entrera au paradis. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى et celui qui me désobéit aura refusé par lui-même d'entrer au paradis. Donc on voit ici que ce n'est pas un choix, mes chers frères et sœurs. Dans ton verset, comme je l'ai indiqué dans le Coran, où Allah SWT nous ordonne d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont de trois catégories. Il y a des versets qui cite l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, côte à côte avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces versets, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Ya ayyuha alladhina amanu, une interpellation aux croyants, un appel aux croyants. أطيعوا الله ورسوله أبيسيك الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ورسوله يا صلى الله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ne lui tournez pas le dos alors que vous entendez ce qu'il vous dit et qu'il vous informe ce qu'il vous transmet comme message et comme guidance. Il y a aussi parmi les catégories citées dans ces versets d'obéissance, le type d'obéissance, le fait que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été relatée d'une façon distincte et indépendant. Le verset est le suivant, lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous a transmis, vous a apporté, prenez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Et ce contre quoi il vous a mis en garde, éloignez-vous-en. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Et craignez Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce que vous dites et vous faites. Craignez-le par rapport à votre prophète, à votre obéissance ou votre désobéissance. Inna Allah al-Shadid al-Iqab. Allah subhanahu wa ta'ala est certes d'un châtiment qui est très douloureux. Et également, le troisième type, la troisième catégorie, le verset qui parle de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous relate l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous indique que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'obéissance à Allah azza wa jalla. Cela fait partie. C'est inclus. Man yuti'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Man yuti'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager en réalité, il a obéi à qui? il obéit à Allah Azza wa Jal. Donc l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est en même temps une obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Allah Azza wa Jal. La preuve de cela, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man ata'ani faqad ata'a Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Celui qui m'obéit aura obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui me désobéit aura désobéi à Allah Azza wa Jal. Donc on voit ici que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est également l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun doute. Si nous avons compris tout cela, mes chers frères et sœurs, cela veut dire que la deuxième mesure, elle n'est rien ce fini, la deuxième mesure avec laquelle nous pesons nos actions, avec laquelle nous reconnaissons la validité de nos gestes et de nos pratiques, c'est quoi la première mesure d'abord? Qui la connaît la première mesure? Personne parmi nous connaît la première mesure. Il y en a deux. C'est quoi la première mesure? On s'en gêne là. Nous avons deux mesures, deux critères qui nous aident à peser nos actions, qui nous donnent le caractère valide de nos actions, de nos pratiques et de nos gestes, na'am, et de nos paroles, etc. Na'am. Al-ikhlas, l'intention, le dévouement pour Allah Azza wa Jalla, pour Allah Azza wa Jalla. Donc, al-ikhlas, le dévouement, l'obéissance, le fait de vouer notre action à Allah Azza wa Jalla. Et le deuxième, c'est quoi le deuxième? Al-mutaba' al-muwafaqa. Faire en sorte que ce que nous faisons est conforme au message prophétique, est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'inclut justement la shahad al-shahadatayn. Donc la profession de foi que chaque croyant prononce tous les jours, matin et soir, lorsqu'il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » J'atteste, je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah s'en fait. À lui seul mérite d'être adoré. À lui seul nous vouons toutes nos actions, toutes nos pratiques. « Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah » Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je reconnais sa prophétie premièrement. Deuxièmement, j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si nous voulons adorer Allah s'en fait, nous devons passer par son enseignement prophétique. Si nous voulons faire une action ou un geste, eh bien nous devons faire la sorte qu'il y ait le sceau prophétique dessus. Qu'il y ait un cachet prophétique qui conforme que cette action, qui confirme que cette action est valide et conforme à ce que Allah soit à la désir de nous. Donc, il est clair qu'une action faite avec une action ou un geste, faite avec une bonne intention de la faire pour Allah soit à la, mais qui ne répond pas aux critères de la sunna, il est logique que cette action soit rejetée. Et également une action qui est conforme au message prophétique, à la sunna, mais qui n'a pas, dans laquelle il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'ikhlas, il n'y a pas de niya. Est-ce qu'elle sera acceptée celle-là aussi? Tu vois, tout le monde a un doute, il n'y a qu'un doute. Naham, elle aussi ne sera pas acceptée. Et c'est pour cela que le verset suivant, dans Surah 15, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ » فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه celui qui souhaite rencontrer son Seigneur. فليعمل عملا صالحا qu'il fasse de bonnes œuvres. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et qu'il associe à l'adoration de son Seigneur personne ou quoi que ce soit. Par rapport à l'amal salih, donc les bonnes œuvres, l'imam Fudayl ibn Iyad, nous a expliqué ce que veut dire l'amal salih. Lorsqu'un jour il fut interrogé, on lui a dit, c'est quoi l'amal salih? Il a répondu en disant, akhlasuhu wa aswabuh. Akhlasuhu wa aswabuh. C'est celui qui est fait avec dévouement, avec le plus grand dévouement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aswabuh, c'est celui qui est fait de la façon la plus correcte par rapport, bien sûr, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il continue en développant cette définition qu'il a donnée de l'amal salih, akhlasuhu wa aswabuh. Il dit, فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. Si l'action est dévouée, est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'une façon dévouée, d'une façon sincère, mais qui n'est pas conforme au message prophétique, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette action n'est pas acceptée. وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. Et si l'action qui est faite ou le geste est fait en conformité avec son message, il est correct, il y a une rectitude par rapport au message prophétique sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y a pas l'intention, il n'y a pas de niya, il n'y a pas d'ikhlas. Elle n'est pas acceptée non plus. Et lorsqu'on lui a demandé, c'est quoi ça, sawab? Cette rectitude, cette droiture, cette perfection, il répond, ma kana ala sunnah, ou ala wifr sunnah. c'est ce qui est conforme à la sunna du prophète. Donc on voit ici que les deux critères importants, c'est l'intention sincère, l'ikhlas, et aussi que notre geste soit conforme à sa sunna. Donc on voit ici, bien sûr, tout ce que j'ai dit, tout est lié ensemble. Vous voyez aussi que ce n'est pas un choix de suivre la sunna du prophète, mais c'est une obligation, c'est un devoir, c'est un engagement par rapport à Allah. Alors maintenant, un peu de rigueur académique, si vous me le permettez, bien entendu. Je vais un peu vous ennuyer maintenant avec cette définition. Je vais un peu expliquer c'est quoi exactement la sunna. C'est un mot qu'on entend souvent. Et que veut dire d'abord la sunna, c'est un mot arabe, comme vous savez très bien. Alors les arabes, lorsqu'ils parlent de sunna, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Quel est son sens linguistique? Ensuite, quel est le sens ou l'application terminologique, al-islahi, qu'ils ont donné? Avant tout, vous devez savoir que le mot as-sunna, le mot as-sunna dans la langue arabe, cela veut dire, cela s'applique sur le mot, ou sur le sens as-sira. As-sira, qui veut dire la bonne conduite, le mode de vie. Et également as-sariqa. Alors, concernant as-sira, ce qui démontre cela, lorsque nous retournons à la littérature arabe, l'adab al-arabi, car la littérature veut connaître l'application linguistique d'un terme quelconque, il faut retourner à ses racines. Il faut retourner à son utilisation auprès des Arabes. Car ce mot, ce livre, le Coran, ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était arabe. À ce sujet, un poète dénommé Khalid al-Hudayli, qui est un poète du début, donc plutôt de l'époque de la Jahiliya, il disait à ce sujet, je sais que vous n'avez pas la poésie, mais bon, vous devez supporter. Il dit, فَلَا تَجْزَعَنْ مِنْ سِيرَةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا فَأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً لَنْ يَسِيرُهَا فَلَا تَجْزَعَنْ مِنْ سِيرَةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا. Il dit, ne sois pas offusqué d'une conduite que tu observes, d'un mode de vie que tu suis. فَأَوَّلُ, c'est le deuxième vers qui nous intéresse, فَأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً لَنْ يَسِيرُهَا. Vous avez entendu le mot sunna quelque part. Vous avez entendu ou vous n'avez pas entendu? فَأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً لَنْ يَسِيرُهَا. Car le premier qui est satisfait de son mode de vie, de sa conduite, c'est celui qui l'observe, qui le suit. Donc on voit ici que le mot sunna est utilisé dans le sens de sira, de mode de vie, de conduite, de cheminement. Et également, as-sariqa, la voie. La voie, bien sûr, avec E à la fin, pas X. Hein. La voie. Donc le cheminement. Et les savants nous rappellent, Ahlul Ilm, nous rappellent que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, lorsqu'il nous parle de sunna, il faut comprendre sunna au sens large du terme. Non pas comme l'ont compris les juristes, al-fuqaha, qui mettent sunna à l'opposé de l'obligatoire al-wajib. Mais ici, sunna doit être prise dans son sens global. C'est l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa totalité, d'une façon globale, parfaite. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit par exemple, « فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي » Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Ici, le mot sunna veut dire sunna au sens large du terme. C'est sa voie, c'est son modèle dans tout, au plan de la croyance, dans son comportement, dans sa pratique religieuse, dans ses relations avec autrui, etc. Donc, elle me faut me chamel le concept globalisant de la sunna ou du modèle prophétique. C'est pour cela que l'imam Ibn Hajar, qui est le commentateur de Sahih al-Bukhari, vous dit justement dans une parole dans son livre Fath al-Bari, il dit taqarrara anna al-lafz as-sunna idha warada fi al-hadith fa innahu la yurad bihi ma yuqabil al-wajib. Il dit, il est établi que lorsque le mot sunna est relaté dans un hadith, il ne veut pas dire par là, ou il ne sous-entend pas l'opposé de l'wajib, de l'obligatoire, comme il est connu en fait. Et il veut dire par ici, comme je l'ai indiqué là tout à l'heure, la sunna au sens large. Le côté éthique, le côté pratique, le côté adoration, le côté croyance, etc. Et c'est également ce qu'a dit un autre savant dénommé Ibn Allan dans son commentaire de Riyad al-Salihin, un livre que vous connaissez certainement, Le Jardin des Vertueux. Ce livre qu'il a dénommé, dans son commentaire qu'il a dénommé Dalil al-Salihin, dans son commentaire, parlant du hadith, Al-Irbad ibn Sariya, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عليكم accrochez-vous. Observez ma sunna. Comment il a expliqué ce savant? Il a dit طريقتي وسيرة القويمة. C'est ma voie, c'est mon cheminement qui est juste et donc est parfait. Donc on voit ici que le mot sunna, ce n'est pas seulement ce qu'on comprend comme étant un petit geste, mais le sunna doit être pris dans son ensemble. Et il y aura une certaine signification dans ce qui va suivre, inshallah. Quant au genre de science, Ahlul Ilm, Al-Ulama, lorsqu'il parle du mot sunna, d'un point de vue terminologique, chaque savant l'a défini d'après la discipline à laquelle il appartient. Donc si c'est un muhaddid, si c'est un savant du hadith, ou un expert en hadith, il ne va pas définir la sunna de la même façon que va la définir un faqih, un juriste, ou encore un usuli, un spécialiste et un expert dans les fondements du droit. Chacun a une approche un peu différente, et vous allez savoir pourquoi. Alors si nous voyons par exemple, à titre d'exemple, ce que les gens du hadith, les savants du hadith, les muhadithoun, ce qu'ils ont donné comme définition, donc à la sunna, ils disent وكل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أم بعدها. Donc ils disent c'est tout ce qu'on a rapporté la sunna d'après les sciences du hadith, d'après les experts de cette science, disent que la sunna c'est tout ce qui a été relaté concernant le prophète صلى الله عليه وسلم comme parole, comme قول, ou fi'l, comme geste, ou taqrir, comme approbation, ou sifatin khalqiyya ou khuluqiyya, ou encore caractéristiques khalqiyya physique ou morale, également sira, conduite et mode de vie, que ce soit avant la révélation ou après la révélation. Si nous retournons par contre, parmi les définitions, vers les, ce qu'on appelle al-usuliyoun, les gens du fondement du droit, usul al-fiqh, quand eux définissent la sunna, une définition très brève. Ils disent As-Sunna, ma nuqila an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min qawlin, aw fi'lin, aw taqrir. Ce que l'on rapporte, ce que l'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme parole, comme geste ou comme approbation. C'est là qu'il s'arrête. Quant aux juristes al-Fuqaha, quant à eux, ils disent concernant la Sunna, ils disent ce qui a été nawarada an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min ghayr istirad. C'est ce qui a été relaté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que cela acquiert pour autant un caractère obligatoire. Donc, comme vous savez très bien, les juristes et le fuqaha mettent la sunna à l'opposé de l'wajib, l'obligatoire. Donc, on voit ici que la définition d'une discipline à une autre diffère quelque peu. Pourquoi? Parce que les gens du hadith, ahlul hadith, les savants du hadith, lorsqu'ils définissent la sunna, lorsqu'ils traitent la sunna, ils la traitent dans sa globalité. Le moindre détail concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le relate. La moindre caractéristique, le moindre geste, la moindre parole, il la rapporte. Car pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour tous les musulmans, et même tous les autres savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle à suivre par excellence. Et c'est pour cela qu'ils ont veillé à réunir et rassembler tout ce qui le touche et tout ce qu'on lui attribue. Alors que Al-Usuli, l'expert, le méthodologiste dans le droit islamique, Al-Usuli, quant à lui, ce qui l'intéresse, c'est d'étudier la sunna comme étant une source législative. Donc si tu lui parles de certaines caractéristiques éthiques du prophète, de sa qualité morale ou physique, il va te dire ça pour moi, ça n'entre pas en ligne de compte. Ça rentre pas dans mon étude, dans mon analyse, dans ma recherche, dans mon investigation. Donc pour lui, pour l'Usuli, le savant al-Fiqh, ce qui m'intéresse, c'est la sunna comme source législative après le Coran. Le faqih, comme vous le savez, le juriste, quant à lui, s'intéresse à savoir ce qui est obligatoire, et ce qui est sunnah. C'est pour cela que, sans aucun doute, et je ne dis pas ça bien sûr, parce que c'est ma formation loin de là, c'est pour cela que les gens du hadith, les savants du hadith, lorsqu'ils relatent la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étudient, leur étude est précise et pointilleuse, car ils ne négligent aucun détail. Il y a même un contemporain qui est décédé, rahimahullah, il y a plusieurs années de cela, une quinzaine d'années de cela, qui était un expert dans le hadith, qui a écrit tout un épître sur le sourire du prophète, ou le rire du prophète. Il a réuni tous les hadiths, il a réuni tous les hadiths où il est indiqué que le prophète, lorsqu'il riait, on voyait ses canines. Elle n'est wajib. Tous les hadiths. Donc regardez la précision jusqu'où elle va. Et c'est pour cela que l'imam al-Tirmidhi, par exemple, l'imam al-Tirmidhi, qui est un grand muhaddith, un grand homme de science de hadith, c'était même l'élève de l'imam al-Bukhari, l'imam al-Tirmidhi a écrit un livre qui s'appelle Al-Shama'il al-Muhammadiyya, donc les qualités physiques et morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous lisez ce livre, je vous assure, je vous garantis que lorsque vous lisez ce livre, vous avez l'impression, subhanallah, vous avez l'impression de voir le prophète devant vous. Je vous assure que lorsque vous lisez ce livre, on a l'impression de voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam assis devant nous. Car il le décrit au moindre détail. Sa taille, sa barbe, de comment il était habillé, lorsqu'il marchait, comment il marchait, lorsqu'il s'assied, comment il s'assied, lorsqu'il riait, comment il riait, etc. Le moindre détail, ils n'ont pas négligé quoi que ce soit. Et bien sûr, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a écrit ce qu'on appelle un Mukhtasar, un abrégé du Shama'il. Il s'appelle Mukhtasar Shama'il Muhammadiyya, que je conseille à tous mes frères et sœurs, pour ceux qui ont accès à la langue arabe. Malheureusement, ce livre n'est pas encore traduit en français, ce qui est dommage. Mais c'est un livre que l'on conseille de lire. Si on veut bien connaître le prophète, et on va parler de ça, bien sûr, dans les lignes qui vont suivre, inshallah. Donc, vous avez vu ici que les définitions données à la sunna dépendent d'une discipline à une autre, et que la discipline la plus précise et la plus pointilleuse quand ce qui touche à la sunna, c'est celle des muhadithoun, ahlul hadith, des gens du hadith, car ils relatent, ils rapportent le moindre détail concernant le prophète sallam, qui ne néglige absolument rien. Alors la question que j'ai à vous poser maintenant que vous savez c'est quoi la sunna a-t-elle été citée? La sunna, est-ce qu'elle a été citée encore ou n'a pas été citée? D'après vous, la sunna a-t-elle été relatée dans le Coran? Est-ce que dans le Coran on retrouve une trace du mot sunna ou on ne retrouve pas? Est-ce qu'Allah s'en a fait allusion à part l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de le suivre, salawatu rabbi wa salamu alayhi, mais y a-t-il dans le Coran un nom, une appellation de la sunna même? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été relaté? Donne-moi un nom dans le Coran. Ce que tu as dit, c'est juste. Bon, effectivement, la sunna a été relatée dans le Coran. Elle a été dénommée. Comment elle a été dénommée? Non, c'est une description. C'est une description, mais le mot sunna même. Non, sunnatullah ici, c'est dans le sens de habitude. Al-dhikr, le rappel. Écoutez ce verset. Dans surat al-Nahl, les abeilles. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ. Nous avons fait descendre le rappel. Pourquoi? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Afin que tu leur expliques leurs démons, ce qui leur a été transmis et révélé. Le Coran a été révélé. Ensuite, le rappel a été transmis au prophète sallam, qui est la sunna même. Donc, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ. Nous avons révélé le rappel, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Afin que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé auparavant, qui est donc le Coran. Donc on voit ici que Al-Dhikr, c'est justement l'un des noms qui a été donné à la sunna dans le Coran. Et un autre nom également, qui le connaît? Qui connaît l'autre nom? Al-Hikmah. Al-Hikmah également. Dans la surat Al-Imran, donc la famille d'Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ ويعلمهم الكتاب والحكمة لقد من الله على المؤمنين الله سبحانه وتعالى أفين فافير وفايان ثم إذ بعث فيهم رسولا منهم إلى أنفوي parmi eux deux mains quelqu'un qui sort deux mains de chez eux un messager رسولا منهم يتلو عليهم آياته il cite il lit ou il récite ses signes il les relate ويزكيهم il les purifie ويعلمهم الكتاب والحكمة. Et il leur apprend le livre qui est le Coran, ou al-hikma qui est la sunna. Comme l'a dit justement l'imam Shafi'i, rahimahullah. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Risala, dit à ce sujet, il dit, Sami'tu, mimman ardahu min ahli al-ilm, anna al-hikma fi al-Quran, hiya sunna. Il dit, j'ai entendu, il dit, des gens de science, des gens qui s'y connaissent dans le Coran, parmi les gens de science agréés, ils m'ont relaté que la sunna dans le Coran était appelée sous le nom de hikma. Et également dans la surat al-Ahzab, dans la surat l'Équalisée, lorsqu'Allah parle des femmes, les croyantes et mu'minates. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. Et rappelez-vous de ce qui est resté dans vos maisons, dans vos demeures, min ayat illah, parmi les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal hikmah, la sunna également. Donc on voit ici que le mot sunna, la sunna du prophète a été cité dans le Coran sous deux appellations, qui est celle al-dhikr ainsi que al-hikmah. Alors quelle est la place? Quel était l'honneur et la place qu'occupait la sunna parmi les, auprès des compagnons, radiallahu anhum ardahum, auprès des tabi'in, auprès des grands de cette umma, salaf al-umma, les grands, les pieux, les premiers de cette communauté. Écoutez bien. L'imam al-Zuhri, qui est un grand tabi'i, il dit كان يقول ممن مضى من علمائنا كان ممن مضى من علمائنا يقول السنة الاعتصام بالسنة نجاة. Donc Zuhri, qui est un tabi'i, qui a connu beaucoup de compagnons, qui a rencontré et fréquenté beaucoup de compagnons, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, il dit, les savants, nos savants qui nous ont précédés, lorsqu'il parle de nos savants, vu qu'il est tabi'i, il sous-entend par là les compagnons. Il dit, nos savants qui nous ont précédés nous ont dit, al-i'tisamu bis-sunna najat, le fait de s'accrocher à la sunna, c'est une réussite. C'est une façon, c'est un salut. C'est une façon de sauver sa peau de l'enfer et de l'égarement. Également, ce qui a été rapporté dans Sahih al-Bukhari Muslim, d'après Anas ibn Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt Anas disait, Ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, yatatabba'u ad-dubba' hawali as-sahfa. Ad-dubba', c'est un aliment, c'est ce qu'on appelle la citrouille. Ajoute, écoutez ce que dit Anas. Il dit, j'observais lorsque le prophète mangeait, il dit, j'observais qu'il suivait, donc il essayait de manger, donc il suivait dans l'assiette, dans le plat, donc les citrouilles, et les mangeait. Il dit, فَمَا زِلْتُ أَحِبُّ أَدُّبَّأْ مِذَلِكَ الْيَوْمِ. Il dit, et je n'ai cessé d'aimer, donc la citrouille, depuis ce jour-là. Depuis qu'il a vu le prophète avoir un penchant, aimer, donc de manger la citrouille, il dit, c'est quoi ça? C'est normal de manger la citrouille. Et bien pourtant, pour ces hommes-là, ces compagnons, c'est un honneur de prendre exemple sur le prophète. Ils l'ont vu aimer quelque chose, et bien eux aussi vont faire comme lui. Voyez-vous? Abdullah ibn Omar, ce personnage qui suivait le prophète Hassan de près. Tout ce que le prophète Hassan faisait, il faisait comme lui. Un jour, il a vu le prophète Hassan porter des sandales, ce qu'on appelle Al-Ni'al al-Sabtiya. Porter des sandales. Mais directement lui aussi, il était également les porter. Il est parti s'en acheter et les porter directement. Il a vu le prophète Hassan prier dans un coin, dans la mosquée. Et bien, il est parti au même coin, prier également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a pris une canne et il marchait avec, il a fait la même chose. Chaque geste, il le suivait de près, c'est pour cela que dans le droit islamique, il est connu que les avis d'Abdullah ibn Omar, sont tenus en compte à cause du fait que c'était quelqu'un qui était assidu dans l'application de la sunnah. C'était quelqu'un qui suivait de près le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point que certains compagnons de son époque disaient, tellement qu'il suivait de près tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, on a eu peur qu'il perde la raison. On dit, on a eu peur qu'il perde la raison. Tellement qu'il suivait de près. L'imam al-Awza'i, qui fait partie des tabi'in, disait à ce sujet, parlant de l'importance de la sunna, il dit, كان يقال, il dit à notre époque, des gens de science disaient, خَمْسٌ كَانَ عَلَيْهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il dit, il y a cinq caractéristiques que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les tabi'in, observaient à la lettre, étaient assidus. Quelles sont ces cinq qualités, ou ces cinq choses, ou ces cinq éléments? Le zoom et le jama'a, le fait de rester en communauté, en congrégation, avec la communauté des fidèles, les mu'minoun. Également, ittiba' al-sunnah, suivre d'une façon assidue la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ittiba' al-sunnah. Imarat al-Masjid, le fait de remplir les mosquées, d'être présent dans les mosquées, d'être attaché aux mosquées. Tilawat al-Qur'an, ou al-Jihad fi sabilillah. La lecture du Coran, tilawat al-Qur'an, la récitation du Coran, le Coran al-Azim, ou al-Jihad fi sabilillah, combattre dans le sens de Allah Azzajal. Donc on retrouve ici parmi les cinq qualités sur lesquelles les compagnons étaient assidus et s'y accrochent de façon vive ainsi que les tabi'in, il y a ittiba' sunnah, le fait de suivre la sunnah de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, un ancien disait qu'il se dénomme Abu al-Abbas Ahmad ibn Sahl ibn Ata, il disait Man alzama nafsahu adab al-sunnah, celui qui observe pour lui-même les bienséances de la sunnah, qu'il appuie sur lui-même. غمر الله قلبه بنور المعرفة. الله سبحانه va embellir son cœur par la lumière de la connaissance. ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب. Il dit, il n'y a pas de stade aussi noble que le fait de suivre le bien-aimé Muhammad صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. Dans ses ordres, le suivre dans ses ordres. وأفعاله dans ses gestes. وأخلاقه dans son comportement. والتأدب بأدابه قولا وعملا ونية وعقدا. Et le fait de s'éduquer d'après son éducation, d'après son comportement, d'après son éthique, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos intentions et dans nos croyances. Donc ici, ben, ça c'est un exemple où, un rappel concernant la place qu'occupait la sunna auprès, donc, de ces gens de sœurs auprès des compagnons de Tabi'in. L'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, disait également, il dit, As-sunnatu safinatu nur. As-sunnah safinatu nur. Man rakibaha naja. Ou man takhallafa anha, ou man lam yarkabha gharif. Et celui qui ne monte pas pour le sera noyé. Regardez cette parabole de l'imam Malik, rahimahullah. As-sunnatu safinatu nur. La sunnah, c'est le bateau ou l'arche de Noé. Mais Rakibaha Naja, celui qui monte dedans, Naja sera sauvé de la noyade, de l'égarement. Ou même la Miyarkabha Gharif, celui qui ne monte pas, il courra tout simplement. Pour souligner son importance, pour suivre la Sunna, il y a certains repères. Pour suivre la Sunna du Prophète, il y a certains repères à observer. Et je vais vous en citer quelques-uns. Le premier de ces repères, mahabbatuhu wa ta'zimuhu. Cultiver dans nos cœurs l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mahabba, al-ta'zim, honorer ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, l'honorer d'une façon correcte, d'une façon saine. Ta'zim shar'i. Non pas l'honorer comme l'ont fait les chrétiens, par exemple, qui ont donné des caractéristiques d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont donné à Isa alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد الله ورسوله. Ne m'élevez pas, n'exagérez pas dans ma personne comme l'ont fait les chrétiens à l'égard de Isa ibn Maryam. وإنما أنا عبد الله ورسوله. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Cultiver l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui va nous aider à le suivre. Cultiver l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'honorer, cela veut dire aussi qu'il doit être pour nous plus cher que notre personne. Plus cher que nos biens, plus cher que nos familles. Et c'est pour ça que dans le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, d'après Anas ibn Malik, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez la teneur ou la pesanteur de son propre sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم. Personne parmi vous ne sera véritablement croyant. حتى أكون أحب إليه. Jusqu'à ce que je suis le plus aimé auprès de lui, puis je n'ai que qui. من ولده ووالده والناس أجمعين. Que je sois beaucoup plus aimé auprès de lui que ses enfants, que ses parents, que tous les gens. Que le prophète صلى الله عليه وسلم soit la personne que nous aimons le plus. Et c'est pour ça que Omar ibn Khattab رضي الله عنه un jour a dit au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est une remarque qu'il faisait. Il dit à Rasulallah, j'aime beaucoup ma famille plus que ma personne. Le prophète dit, là, il y a Omar. Non. En réalité, tu dois avant tout m'aimer plus que ta famille et ta personne. Il faut que moi, sallallahu alayhi wa sallam, je sois beaucoup plus aimé auprès de toi que ta famille et tes biens et ta personne. Donc on voit ici que cultiver l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fera en sorte qu'il soit la personne la plus chère pour nous. Bien plus cher que nos biens, bien plus cher que nos familles, bien plus cher que nos personnes. C'est comme ça qu'on apprendra à le suivre. Et pour aimer le prophète, il faut le connaître. pas simplement des prétentions, mais il faut apprendre à reconnaître. Comme le disait très bien l'imam al-Sakhawi, qui est un élève d'Ibn Hajar, un fidèle disciple d'Ibn Hajar, dans un livre manuscrit à lui, il disait, parlant de la Sira, il dit: comment peut-on prétendre aimer le prophète sans le connaître? Comment peut-on prétendre l'aimer sans le connaître? Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de lire sa biographie. Siratuhu, sallallahu alayhi wa sallam. Lire sa biographie, le découvrir, vivre avec lui, faire en sorte que lorsque nous lisons sa biographie, nous atteignons ce stade que disait Ibn Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad. Il disait à ce sujet: à force que la personne étudie la sira du prophète sallam, découvre le prophète sallam dans ses différentes facettes, dans sa foi, son courage, sa personnalité, dans son comportement, dans ses rapports avec les autres, il dit, à force de nous enfoncer, de nous initier dans sa connaissance, il dit, nous arrivons à un stade où nous nous imaginons que nous sommes assis à sa table, avec d'autres compagnons, comme si nous étions assis à la même table, comme si le prophète s'adressait à nous directement et qu'il y avait près de nous d'autres compagnons, comme Abu Bakr, Omar, Othman et bien d'autres, radiallahu anhu ajma'in. C'est à ce degré-là que nous devons arriver. C'est pour l'aimer, il faut le connaître, il faut le découvrir. Il faut découvrir sa sira, sa vie, sa biographie, en tirer des leçons. Non pas lire la sira comme si on lisait un journal ou un roman, mais lire sa sira par amour pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Lire sa sira pour en tirer des leçons, pour s'imprégner de sa personnalité. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Et bien sûr, le fait de l'aimer, nous sommes tous dans le premier repère, le fait de l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam, cela exige bien sûr de le suivre, de le prendre pour exemple, pour modèle, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Le suivre pour modèle, ou le suivre de notre fort intérieur, bantinam, en l'aimant, en l'honorant, en croyant sa prophétie, en croyant tout ce qu'il nous a relaté comme information, al-akhbar, qu'elle touche du vécu, ou bien qu'elle touche de l'au-delà, ou du monde de l'invisible. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله, si vraiment vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, dis-leur, ya Muhammad, si vraiment vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Donc si vraiment vous prétendez aimer Allah subhanahu wa ta'ala, dis-leur, ya Muhammad, suivez-moi, ma personne en tant que prophète. يحببكم الله, الله سبحانه vous aimera également, ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. À ce sujet, l'imam Ibn Kathir dit que dans ce verset, il dit: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل. Dit ce verset, c'est un verset tranchant concernant tous ceux qui prétendent aimer Allah سبحانه. Mais وليس هو على الطريقة المحمدية. Il prétend aimer le prophète, il prétend aimer Allah سبحانه وتعالى, mais ne suit pas le chemin du prophète. C'est une prétention mensongère de prétendre aimer Allah Azza wa Jal et de ne pas suivre son prophète. Et c'est là qu'il dit ensuite, donc l'image de Kathir, il dit: حَتَّ يَتَّبِعَ شَرْعَ الْمُحَمَّدِ وَالدِّينَ النَّبَوِي. Donc nous n'aimerons certainement Allah subhanahu wa ta'ala qu'en suivant la voie du prophète Muhammad, en suivant sa sunna, en s'y accrochant. C'est comme ça qu'on concrétise l'amour d'Allah Azza wa Jal. Après, il dit, أطعت الإله وتزعم حبه إن هذا لعمري في الخيات الشنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. أطعت الإله وأنت تزعم حبه, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu prétends l'aimer, إن هذا لعمري في الخيات الشنيع. C'est une comparaison un peu flagrante de prétendre aimer Allah Azza wa Jal, on lui désobéit après. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Si ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala était sincère, si ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala était sincère, tu l'aurais suivi, tu l'aurais obéi. Pourquoi? إن المحب لمن يحب مطيع. Car celui qui aime quelqu'un, il va le suivre. Si tu aimes quelqu'un, tu vas suivre ce qu'il va te dire. Tu vas écouter ses conseils, tu vas prêter attention à tout ce qu'il te rapporte, à tout ce qu'il te dit. Un deuxième repère: prendre la sunna ou adopter la sunna dans sa totalité. Prendre la sunna et l'adopter dans sa totalité. Et ne prête pas oreille à ceux qui te disent ce n'est qu'un détail. Ce n'est qu'un détail d'ici, ce n'est pas important. Ça, ce n'est pas important. C'est comme ça. Et c'est de cette façon que vous voyez l'islam, comment il est vécu dans notre société, dans nos familles, dans nos foyers. L'ignorance, les traditions, les coutumes ancestrales, locales et tribales l'emportent sur le message originel qui suit l'islam. Sur le message originel qui est la sunna du prophète, la sunna. Parce que les gens, à force de dire, ça c'est qu'une sunna, c'est pas important. À force de dire cela, ils laissent tomber ce qu'ils appellent un détail. Et demain, on en laisse tomber un autre, et après demain, on laisse tomber un autre, et à la fin, il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste plus rien. Et c'est pour cela qu'il faut prendre la sunna dans sa totalité, dans sa globalité. Lorsqu'on adopte la sunna du prophète, la sunna, il faut également y aller doucement, progressivement. Et c'est pour cela que l'imam Ibn Qayyim, l'imam Ibn Qayyim disait à ce sujet, il dit, l'autorité de la sunan, la ta'attala la sunan du Rasulullah, wa darasa rusumah, wa darasa rusumah. Il dit, si maintenant, les sunan du prophète, c'est des séances, tout ce qui nous était rapporté du prophète, si nous laissons tomber tout cela, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la sunan du prophète, dans son entièreté, sera tout simplement arrêtée. Plus personne la suivra. Bien plus que cela, elle risque de disparaître. Et ne plus revenir. Donc prendre la sunna, l'adopter dans sa globalité et la prendre bien sûr et avancer de façon progressive dans son application. Et également ce qui est important comme repère dans le fait de suivre la sunna. Donc quand je disais prendre la sunna dans sa globalité, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle, entre guillemets, ce que certains appellent détails, qui ne sont pas des détails en réalité. Dans notre dîme, dans notre religion, nous n'avons pas quelque chose qui s'appelle kulliyat ou juz'iyat. Des fondements généraux et des détails. Tout est important. Tout est important, mais il faut prendre bien sûr cela d'une façon progressive, graduelle. Prendre la sunna dans sa globalité, cela veut dire surtout, et également, le prendre pour modèle dans sa prière. Alors qu'il nous l'ordonne. Lorsqu'il nous dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Dans Sahih Bukhari, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. C'est parti d'adopter, du fait d'adopter sa sunna, c'est d'étudier comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Allez voir maintenant autour de nous, comment les gens prient. La prière plus une tradition. Beaucoup de gens, lorsque tu les interroges, à titre d'exemple, qui t'a appris la prière, ils vont te dire ce sont mes parents qui m'ont appris. Et lorsque tu vois, comment les parents ont appris, comment ils ont enseigné la prière, ils ont enseigné la prière qu'ils connaissent, d'après le peu. Qu'ils ont appris. Mais qui parmi les musulmans et musulmanes va puiser dans sa sunna, va chercher comment le prophète va se prier, quel est le modèle prophétique? Alors c'est un ordre ici. Il est connu dans les fondements du droit selon le fait que lorsque l'ordre est relaté, il indique une obligation jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait une indication qarina, une indication qui vient prouver le contraire, comme quoi c'est juste que c'est simplement recommandé. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Et dans le hadith rapporté par Muslim, Abu Jabir, concernant le pèlerinage par exemple, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam? Il dit Khudu anni manasikakum, fala'alli la alqakum ba'da 'ami hada. Prenez de moi les rites du pèlerinage, car peut-être vous ne me reverrez pas l'an prochain. Peut-être que vous ne me reverrez pas l'an prochain. Khudu anni manasikakum. Lorsqu'on voit par exemple Aisha radiallahu anha, dans Bukhari Muslim, lorsqu'elle dit « كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتناعله في شأنه كله » Le prophète صلى الله عليه وسلم aimait commencer par la droite dans tout. Il aimait commencer par la droite lorsqu'il se peignait. Il aimait commencer par la droite lorsqu'il portait ses sandales ou ses chaussures. Bref, « وفي شأنه كله » dans toutes ses situations, dans tous ses états, il aimait commencer par la droite. N'y a-t-il pas là sur un exemple qu'on peut prendre avec sa famille? Comment elle traitait sa famille? Pas comme l'ont compris certains jeunes aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Certains jeunes qui aiment la sunna na'am, il n'y a pas de doute. Lorsqu'ils sont avec leurs frères dans des centres, dans des mosquées, c'est un ange, on peut dire. Il y a de bon comportement, de bon exemple qu'il offre. Mais dès qu'il entre chez lui, choisit l'autre chez lui, c'est-à-dire soit il est célibataire, il est auprès de ses parents, ou alors il est marié auprès de son épouse, dès qu'il entre, son bon comportement, alors qu'il te parle de sunnah, na'am, suivre le prophète, c'est notre modèle. Ce bon comportement, cet exemple qu'il observe lorsqu'il est dans la rue, dans la mosquée, dans un centre, dès qu'il entre chez lui, il est au vestiaire. Et il change de tenue. Il met la tenue de gendarme. Dès qu'il entre chez lui avec une tenue de gendarme, c'est le pur et dur. Il ne rigole pas, il ne sourit pas. Pas de plaisanterie. Il suffit que ses parents ou son épouse lui fassent une remarque. Non, c'est pas comme ça. Le prophète n'a pas dit ça, tu connais rien. Subhanallah. Adieu. C'est ça le modèle prophétique. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait par exemple sa famille ou bien ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît les hadiths. Malheureusement, c'est un hadith qu'on cite sans faire attention. Parce qu'aujourd'hui, ce serait un peu honteux de dire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim et d'autres, avec Aïcha. Un jour, il marchait avec Aïcha. Il y avait d'autres compagnons qui étaient devant. Et il a dit aux compagnons, avancez-vous. Allez de l'avant. Ils ont avancé. Et il a dit à Aïcha, les gars, dans une compétition, un marathon. Et le prophète sallam, et son épouse Aïcha, radiallahu anha, ils ont couru. Ils ont couru, qui l'a emporté, c'est Aïcha. Elle a gagné. Quelques années plus tard, ou quelques temps plus tard, le prophète sallam a dit à Aïcha, viens, on va recommencer dans cette compétition. Et de nouveau, il a couru avec elle, mais il l'a battu cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'elle a, comme elle le dit elle-même, Aïcha dit, « وَقَدْ أَرْهَقَ لِلْنَحْلِ » Donc elle avait pris du poids. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « هَذِهِ بِتِلْكِ » Celle-là maintenant, cette victoire, je te la retiens contre la première que tu m'as battue. Ça, c'est un modèle. En fait, aujourd'hui, tu dis ça à un jeune, mais c'est fou, quoi. Moi, personnellement, c'est une compétition avec une épouse. Je prends la vie, tu t'entends bien, quoi. Moi, m'amuser avec elle. Ou plaisante avec mes parents, bien sûr, plaisante dans ce qui est vrai. Parce que le prophète sallam, comme il est relaté, le prophète sallam, lorsqu'il plaisantait, ne plaisantait qu'avec la vérité. Il ne mentait pas dans sa plaisanterie. Un exemple là-dessus. Umm Sulaym, comme il le raconte dans Sahih Muslim, Umm Sulaym, cette brave femme, avait envoyé une servante à elle, qui était une femme âgée. Elle est venue chez le prophète sallam. Le prophète Hassan l'a regardé et lui a dit, tu sais, des femmes comme toi n'entreront pas au paradis. La pauvre femme est partie en pleurant chez Umm Sulaym en disant, le prophète Hassan m'a dit que je n'entrerai pas au paradis. Umm Sulaym était choquée, comment le prophète aurait pu te dire cela? Elle est venue voir le prophète Hassan en disant, Ya Rasulallah, tu m'as dit à ma servante qu'aucun n'entre pas au paradis. Comment peut-on dire cela? C'est là que le prophète Hassan s'est mis à rire en disant, en réalité, ce que je voulais dire par là, elle ne m'a pas compris. Je vais vous dire par là qu'une femme vieille, comme elle n'entrera pas au paradis. Mais lorsqu'elle entre au paradis, elle sera jeune. Elle ne sera pas dans cet état-là. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait, s'amusait. Bien sûr, c'était quelqu'un aussi de ferme. Donc lorsqu'on adopte sa sunnah, il faut la prendre dans sa globalité. Pas sur certains aspects et abandonner d'autres. Pas observer certains aspects, mais avoir un comportement qui n'est pas digne même d'un musulman, le plus ordinaire des musulmans. Donc si on adopte sa sunnah, il faut la prendre dans sa globalité. Et qui plus est, lorsque, au niveau comportement par exemple, qui fait défaut à beaucoup d'entre nous, lorsque nous voyons ce que Anas ibn Malik, c'était le meilleur d'entre nous, le meilleur des gens, au niveau de son comportement. Un comportement parfait. Le fils d'Anas ibn Malik, il s'appelle Nufayr, puisqu'il avait la vingtaine d'oiseaux. Ce petit oiseau, ou plutôt on surnommait Abu Nufayr. Donc le fils d'Anas s'appelait Abu Nufayr. Il avait un petit oiseau qu'on surnommait Nughayr. Et un jour, ce petit oiseau est mort. Et lorsque ce fils d'Anas est venu voir le prophète sallam s'est mis à plaisanter avec ce fils en lui disant, Ya Abu Nufayr, ماذا فعلت بالنغير? Abu Nufayr, qu'est-ce que tu as fait de Nughayr? Donc pour que la phrase rime, donc il plaisante avec lui. Donc on voit ici, ça c'est un exemple parmi bien d'autres, parmi des milliers d'autres exemples, que le prophète était une personnalité complète. Que lorsque nous voulons puiser de sa personnalité, de ce modèle, nous devons prendre ce sur tous les plans, sur toutes les facettes, sur tous les aspects, sur le plan de la croyance et l'i'tiqad, sur le plan des habitudes, sur le plan également du comportement, sur le plan des rapports avec les autres, etc. Également parmi les repères au niveau de suivre la sunna, expliquer et démontrer ce qu'est la sunna, sans provoquer de polémique. Sans faire de polémique. Il peut arriver un jour que tu sois amené à discuter avec quelqu'un. Et ça, ce point, j'insiste dessus, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, on entend des jeunes qui polémiquent et qui se disputent sur des questions de fiqh, sur des questions touchant à la sunna de façon générale, ou aux sciences, l'ilm, le shar'i, de façon encore plus vaste. Et à la fin, ces frères, des fois, ça arrive même au point que ces frères ne se parlent plus. Même Ahmed a été interrogé concernant, on lui a dit, si je suis dans une assemblée et que je suis appelé à parler de la sunna, qu'est-ce que je dois faire? Regardez cette phrase très courte. Il lui a dit, أخبر بالسنة ولا تجادل عنها. أخبر بالسنة, informe ce qu'est la sunna et ne polémique pas sur le sujet. Imam Malik également a été interrogé. Regardez, subhanallah, comment leurs réponses sont semblables parce qu'ils puissent de la même source. Également l'imam Malik, on lui a dit, Abu Abdillah, ou Abu Abdillah, son surnom. الرجل يكون عالما للسنة أي يجادل عنها. Il dit, l'homme, est-ce que quelqu'un parmi nous a une très grande connaissance de la sunna, est-ce qu'il peut pour autant polémiquer à son sujet? Il a dit là. Il a dit la même phrase pratiquement en disant, أخبر, on peut dire أخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. S'il informe ce qu'est la sunna, si les gens l'acceptent, alhamdulillah, s'il n'accepte pas, qu'ils se taisent et qu'ils n'ouvrent pas de débat qui risque d'être interminable. Également, le repère dans le fait de suivre la sunna du prophète sallam, le suivre la sunna, c'est après avoir fait deux choses. Premièrement, avoir vérifié l'authenticité du hadith. Deuxièmement, avoir compris al-dilala, al-fiqh, avoir compris de quoi parle le hadith. Et je vais vous donner un bête exemple sur certains incidents qui se produisent lorsqu'on comprend très mal. Et surtout lorsqu'on n'a pas la langue arabe en particulier. Dans une des éditions, vous connaissez sûrement cet exemple, dans une des éditions du livre Riyad al-Salihin, le jardin de vertu, il y a un hadith, même très connu dans le droit islamique, de cette femme, même au point de donner un surnom, on lui a dit, Al-Mara al-Atila Tarubu Yad al-Amitim. La femme qui ne repousse la main de personne. C'était une femme à l'époque du prophète qui n'avait pas jalousie. Elle était mariée mais n'avait aucune jalousie. Elle ne repoussait la main de personne. Et son époux est venu se plaindre auprès du prophète sallam. Ya Rasulallah. Inna mra'ati la taruddu yad ala mithli. Mon épouse ne repousse la main de personne. Le prophète sallam lui a dit, Fariqa, c'est par toi d'elle. Et ce qu'il répond, il dit, Ya Rasulallah, Inni uhibbuha. Et je l'aime. Il a dit, prends-la comme étant une sorte de servante, en quelque sorte. Comment ils ont traduit dans le livre, en français, dans une édition? Ils ont traduit, prends-la comme esclave. Et ça s'est passé ici à Bruxelles, justement, parmi les effets néfastes de traduction. Et c'est connu la règle qui dit, traduction égale trahison. Donc il y a un jeune homme, un frère, qui avait des problèmes avec son épouse c'était une sorte qui n'était pas très dans la religion, donc pas très pratiquante, elle dit n'a jamais rien. Et alors ce frère avait des problèmes avec elle, parce que lui, bon, alhamdoulilah, il était sur les rails, comme on dit, elle ne sait pas encore. Alors un jour, il lisait justement ce livre et il est tombé sur ce hadith-là. Il a dit, subhanallah, c'est vraiment mon cœur. Il n'a pas eu besoin de même au livre d'Ibn Hajar pour lui expliquer le hadith. Le bécon, il a compris direct. Il a capté le message. Comme si ce hadith s'adressait à lui directement. Il dit, subhanallah, c'est mon cas. C'est une femme qui, elle sort quand elle veut, elle entre quand elle veut, elle me manque de respect, elle n'écoute jamais, elle n'obéit jamais. Subhanallah, ça répond tout à fait critère.
Et bien, je pense comme ça.
Alors lui, il commence à faire comme elle. Donc il rentrait 4h du matin, il sortait quand il veut, il rentrait quand il veut. Et un jour, elle a commencé à lui faire des remarques en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais toi? Il lui dit, écoute, tu ne peux pas me parler toi. Parce que toi, dorénavant, il lui a dit dorénavant, tu es une esclave. Alors Miskina était choqué, esclave. Moi, une esclave, je connais tout, c'est une esclave. Bien sûr. C'est pas moi qui dis, c'est le prophète qui dit. Alors il lui a ouvert le livre, il le regarde par toi-même. Alors effectivement, lorsqu'il a eu, il était choqué. Il lui dit, prends la peau d'esclave, c'est quoi ça? Alors ils ont décidé tous les deux d'aller voir un imam pour l'interroger. Il n'était pas. Lorsque cet imam, justement, connaissait un peu le français, ils ont été devant, il dit, voilà, cher, moi j'ai le livre, il est là devant moi, j'en avais vers eux, il dit comme quoi je peux apprendre comme esclave. Et mon épouse n'est pas d'accord. Lorsqu'il a regardé le hadith, il a fait. Ils ont été choqués de la traduction. Il ne savait plus quoi répondre, premièrement. Après ça, il lui a dit, cher jeune homme, j'ai un grand conseil à te donner. Va apprendre la langue arabe, s'il te plaît. Parce que khadima, le mot khadima dans la langue arabe, ne veut pas dire ama, esclave. Le mot khadima, c'est servante. Il lui a expliqué, tu sais ce que voulait dire le prophète par là? À partir du moment où cette femme n'avait pas de jalousie, cette femme n'a pas de jalousie, eh bien, cela veut dire par là que le fait que tu la prennes, entre guillemets, comme servante, khadima, cela veut dire que tu n'auras pas le même amour pour elle que si c'était une femme qui avait une jalousie. C'est ça que ça veut dire, non pas que tu la prennes comme esclave. Ça veut dire, mais pourquoi j'en ai ici esclave? Mais ça, c'est pas moi qu'il faut le dire. Ça, c'est une maison de traduction. Donc ici, faites attention, mes chers frères et sœurs, au niveau de traduction, traduction égale trahison. Donc ça, c'est un exemple que al-fiqh, faire le hadith, comprendre le hadith, c'est très important. Un exemple également, qu'un de nos professeurs nous relatait, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jeune homme avait lu dans un livre de hadith comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il chaussait ses sandales ou ses chaussures, il se baissait. Il se baissait puis il les mettait dans ses pieds. Ce jeune homme qui certainement aime la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, veut l'appliquer à la lettre, c'est ce qu'il a fait. Pour ceux qui ont été à Médine et qui connaissent les sorties de la mosquée prophétique, des fois il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens sortent en même temps. Des centaines de gens sortent en même temps. Alors je ne vous dis pas l'embouteillage qui se passe lorsque tout le monde sort en même temps. Et pourtant, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça le manque de faire, le manque de connaissance. Il a bloqué la chaussée, comme on dit. Donc il s'est baissé, à son aide, doucement, monsieur Koulraoud n'est pas pressé. Il a déposé ses chaussures, il a commencé à lui glisser doucement son aide. Et les gens ont commencé à se bousculer les uns contre les autres, ils ont commencé à lui crier dessus. Et c'est là qu'il leur a dit, vous ne comprenez rien. Vous ne voyez pas que je suis en train d'appliquer le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'un professeur l'a pris par la main, qu'il a rencontré le deuxième, et je lui ai expliqué quelque chose. Mais c'est pas comme ça qu'il faut. N'essayez pas d'appliquer la sunnah en causant du tort aux autres. À l'application de la sunnah, il y a un certain tact, une certaine connaissance à acquérir au préalable pour l'appliquer correctement. Voyez-vous? Et même, également ici, même lorsqu'on veut corriger quelqu'un. Un bête exemple qui s'est passé dans une mosquée, pour parmi les femmes par exemple. Il y a une sœur qui est entrée à la mosquée et elle n'avait pas de chaussettes. Donc elle a rentré pour dire s'en va. Et directement, elle s'est fait repérer. De toute façon, les deux là, ça fonctionne bien. Elle s'est fait repérer et du coup, il y a une sœur qui était là. Elle lui a fait comme ça. Donc elle a. Elle l'a appelé comme ça, disant, hé, elle a fait un signe de son doigt vers le bas. Ah, la sœur n'a rien compris, elle a commencé à regarder vers le bas, puis c'est naturel. Elle lui a dit, la prochaine fois, tu n'entres pas à la mosquée sans tes chaussettes. Ah, c'est pas comme ça qu'on enseigne la sunnah, c'est pas comme ça qu'on leur enseigne les bienséances prophétiques. Il était possible à cette personne de l'apprendre, de prendre cette sœur à part, de lui demander comment vas-tu, quelque chose. Voilà, écoute, je voulais juste faire une petite remarque. La prochaine fois, quand tu rentres à la mosquée, que c'est cela. Allez. Ça passe comme du bilmahabba ou l'halawa comme on dit. Ah ben tu rentres comme un bulldozer, comme un gendarme. Il faut faire ceci et ne pas faire cela. Ça, je peux vous garantir que c'est l'image que beaucoup de gens ont retenue de ceux qui appliquent la sunna. C'est ça l'image qu'ils ont retenue. C'est des gens durs de comportement, ils ont un langage très dur, ils n'ont pas de pitié, de rahma. Alors je dis à ses frères, je dis à moi-même avant tout, allons nous référer à une recommandation divine, à l'encontre du prophète, sur base de ce verset, nous devons tous réfléchir. Et après cela, Inch'Allah, notre style de da'wa, notre style de prédication, de prêche de la sunna, du modèle prophétique, va certainement changer. Qu'est-ce qu'il a dit ? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, « فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّلْ غَلِيدَ الْقَلْبِ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ » C'est par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu t'es montré doux envers eux. « وَلَوْ كُنْتَ فَضَّلْ غَلِيدَ الْقَلْبِ » Si tu étais quelqu'un de rude, « غَلِيدَ الْقَلْبِ » avec un cœur dur, « لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ » Ceux qui étaient autour de toi, ses compagnons, auraient pris la fuite. Ils t'auraient fui, ils ne t'auraient pas supporté. Voilà une leçon donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Tu as certes un noble comportement. Alors ici nous avons, avant de prêcher cette sunna, avant de l'apprendre à notre entourage, nous devons avant tout avoir le comportement exemplaire pour l'enseigner. Cette douceur, il faut avoir. Et non pas regarder les gens avec un esprit hautain en se disant on est supérieur à eux. Nous faisons partie de l'élite, eux font partie de la masse. Pas du tout. À savoir, le prophète s'assied avec tout le monde. Le prophète s'assied avec tout le monde, s'assied avec les enfants. Cette femme qui était noire, qui nettoyait, qui était une concierge, qui nettoyait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Bukhari et notre Abu Bakr. Un jour, cette femme qui nettoyait cette mosquée, c'était une femme, lorsqu'on l'observe à l'époque, si l'expression le permet, elle est en bas de l'échelle de la société, comme on dit. Elle est une simple concierge, elle balayait donc la mosquée. Un jour, elle est décédée. Et le prophète l'a remarqué quelques jours après. Alors il a demandé à ses copains, il a dit, où est la femme là? Al-Mar'atu Sauda, la femme noire qui nettoyait la mosquée. Elle est où? Il s'interroge, salatu rabbi sallam, tawadu, modestie de sa part. Elle est où cette femme? Et c'est là qu'un des copains lui a fait, ya Rasulallah, il y a qad matat, elle est morte. Alors il leur a dit, afala a'lamtumuni, pourquoi vous ne m'avez pas averti? Et c'est là que le compagnon qui rapporte le hadith dit, ka'annana sagharnaha. Il s'est comme si nous l'avions quelque peu, pas dire méprisé, mais sous-estimé. C'est une femme noire, elle vient nettoyer, comme une esclave, elle part. Elle dit, indiquez-moi sa tombe, où se trouve sa tombe, je vais prier en sa faveur. Elle est une simple femme. Et le prophète s'est rendu, donc au cimetière, il a prié, il a fait donc deux rak'at, et également, il a dit, « Inna Allah munawwirun quluba qubura haoul al-mawta bi salati alayhim » Allah subhanahu wa ta'ala va éclairer, illuminer les pauvres de ces morts qui sont devant moi par ma prière. Donc on voit ici que la modestie, à savoir avec tout le monde, et c'est une qualité prophétique et qui nous manque malheureusement donc aujourd'hui. Donc, n'appliquer une sunna que lorsqu'on l'a compris correctement. Et dès qu'on apprend une chose, concernant la sunna du prophète sallam, on devait l'appliquer rapidement, le plus vite possible. Le mieux qu'on peut, bien entendu. Chacun d'après ses possibilités. Et c'est comme ça qu'on la retient et qu'on ne l'oublie pas. L'imam Ahmed, lorsqu'il a relaté un hadith dans son musnad, dans son livre, son recueil de hadith musnad, un hadith où il est dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour lorsqu'il a été chez Al-Hajjam, celui qui fait ce qu'on appelle la saignée, donc il retire le sang, « A'tahu dinaran » Le prophète a donné un dinar. L'imam Ahmed, à partir du moment où il a pris connaissance de ce hadith, qu'il a transcrit dans son recueil, il a directement été faire la même chose. Sur le champ, il a été chez un hadjam et il a également fait une saignée et il a donné un dinar. Tout ça pour retenir le hadith et l'appliquer. L'imam al-Bukhari, lorsqu'on l'a interrogé, comment tu retenis tous ces hadiths? Il a dit, même lorsque je dis que le prophète se gratte le front, ben je fais comme lui. Pour ne pas l'oublier. Donc on va dire que l'application directe, ben c'est progressive, d'après chacun, d'après nos capacités et nos moyens, nous permet, inshallah, de retenir facilement. Alors pour terminer, on arrive à la fin, pour terminer, quels sont les fruits que l'on acquiert en appliquant sa sunna? Quel est le bénéfice? Le premier bénéfice, al-wusul ila daraja bi mahabbatillah azza wa jalla. Nous arrivons au degré sublime de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Conformément au verset que je vous ai indiqué tout à l'heure, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Également, celui qui s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il applique à un moment où les gens la délaissent, à un moment où les gens la maîtrisent, comme on retrouve aujourd'hui des gens qui disent ce n'est qu'un détail, le siwak c'est un détail, ceci c'est un détail, cela c'est un détail. Eh bien, lorsque toi tu t'accroches à tout cela, tu prends exemple sur qui? Tu prends exemple sur le prophète, sur sa personne. Et tu dois patienter. Quelle est ta récompense? Écoutez bien, la récompense est la suivante. Le prophète dans un hadith rapporté par Abu Daoud, hadith sahih, rapporté par Abu Daoud de Tirmidhi, il nous dit, « Min waraikum ayyamu sabr. »« Min waraikum ayyamu sabr. »« Il mutanashiki bima antum alayh ajru khamsin. » Il y a après vous, derrière vous, des jours d'endurance, des preuves de patience. Vous devez supporter, patienter. Celui qui s'accroche, celui de cette époque-là qui s'accrochera sur la voie sur laquelle vous êtes maintenant, vous ou les compagnons, il aura une récompense de 5 ans. Et c'est tout. Alors les compagnons disent à Rasulallah, minna ou minhum, récompense de 5 ans de quoi? 5 ans de nous ou bien d'eux? Il a dit non, bel minkum. Donc chaque croyant qui vient plus tard, après l'époque prophétique, bien après, et qui applique cette voie prophétique, cette sunna, et qui s'accroche, et qui mord dessus, comme on dit, à belles dents, Abdou Aleha bin Nawajib, comme le dit le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'y accroche, eh bien, certainement, il a la récompense de 5 ans des compagnons qui ont vécu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, encore plus à notre époque où la sunna est devenue étrangère parmi les gens. Quand tu commences à pratiquer une sunna, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il nous apporte une nouvelle religion. Atana bidin jadid. Et notre professeur et chef Anis ibn Tahir, l'Indonésie, nous relatait une histoire qui s'est passée à Médine dans la mosquée prophétique il y a une vingtaine d'années de cela. Vous savez que parmi les bienséances prophétiques, lorsqu'on se relève de la prière, d'une prosternation, le fait de serrer ses poings, donc de se lever, donc debout. Parce qu'il y a un hadith sahih à ce niveau-là. Il y avait un jeune homme, il y a 20 ans de cela, à Médine. Pas là pour tout, hein. C'est pas à Bruxelles ni à Paris, c'est à Médine. Là où il y a la tombe du prophète, là où il y a sa mosquée, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il y avait un jeune homme qui, donc comme le disait notre professeur, il dit, il y avait un jeune homme qui priait, donc dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'en remontant la prière, donc de la prosternation, il a serré les poings et s'est levé. Alors il y avait un vieil homme qui pensait qu'il l'a vu. Alors il l'a observé, il l'a surveillé. Et il a remarqué que durant toute sa prière, il faisait ça. Chaque fois qu'il se relevait, il serrait les poings et s'est levé. Il était choqué. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? À quoi il joue? Et il a tapé un policier, c'est bien. Ils ont regardé ce jeune en train de jouer avec la religion. Alors le policier, parce que bon, il est au courant de rien, il vient avec lui, il fait son enquête. Alors il vient après de ce jeune, il dit, qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi tu te lèves et tu serres tes poings? Il dit, subhanallah, c'est le prophète qui nous a appris ça. C'est sûr que c'est le prophète qui a appris ça? Il dit, bien sûr, il y a un hadith là qu'on s'est expliqué, voilà, il s'est rapporté par un tel. Voilà, le policier n'en connaissait pas plus. Il a fait ça va. Mais bien sûr, le veilleur est parti choqué en disant, regarde ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Donc, surtout à notre époque où la sunna, le fait de suivre la sunna, c'est considéré comme quelque chose d'étranger. Alors il faut bien s'accrocher, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit justement, dans le hadith, l'Irbad ibn Sayyid, que vous connaissez, ceux qui vont vivre parmi vous après moi, il va y avoir beaucoup de divergences. Accrochez-vous, soyez assidus dans l'application de ma sunna et de celle de mes successeurs bien guidés qui sont bien sûr les quatre califes. Également, les deux derniers points, deux derniers bénéfices et fruits que l'on tire de l'application donc de la sunna, le fait de s'accrocher à la sunna, c'est une façon de se préserver, de se prémunir contre les innovations, al-bida'. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, mais c'est quoi ça, sunna bida'a, passez votre temps là-dedans. Subhanallah, c'est un dîn ça, c'est une religion. Comment puis-je rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec des choses qui m'apportent de les faire? Comment pourrais-je le rencontrer avec des choses qui ne sont pas correctes? Alors je peux vous dire une chose, et j'assume la responsabilité de ce que je dis, celui qui dit ça, qui dit ce genre de propos, vous ne vous intéressez qu'à la sunna, vous ne connaissez que sunna bida'a, c'est l'une des deux catégories. Soit c'est quelqu'un qui est ignorant, qui parle sans savoir, ou alors c'est quelqu'un, nas'Allah salama, qui est malade de cœur et d'esprit. Malade de qalb. Ibn Abbas, radiallahu anhu, disait, il dit, ma yata ala al-nas min'am, illa ahdadu fihi bid'a wa amatu sunna. Il dit, il ne passera pas une année que les gens, sans que les gens font vivre l'innovation, ils inventent quelque chose de nouveau, et en même temps, automatiquement, il faut mourir. Donc, une sunna, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit Hatta tahiyal bid'a wa tamut as-sunan. Il dit au point que les innovations, tout ce qui est inventé par les gens, comme tradition, coutume, etc., ils vont proliférer, ils vont être ressuscités. Et en contrepartie, tout ce qui touche directement à la voie prophétique, à la sunna, al-nabawiyya disparaît et meurt progressivement. Donc, faire attention à ce côté-là également. Et également le fait de s'accrocher à la sunna du prophète, et de la suivre d'une façon assidue dans ses différentes facettes, elle nous garantit également la réussite dans ce bas monde, la fierté dans ce bas monde et dans l'au-delà. À quoi ça sert d'avoir, attention, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Il ne faut pas tomber dans le discours qui est de dire la communauté musulmane est faible parce qu'elle n'a pas de science, elle n'a pas de technologie, elle n'a pas d'armes, etc. Ce sont des facteurs, certainement. Mais il y a un facteur qui est bien plus important. Il y a un facteur qui est une racine. À partir du moment où les croyants et croyantes se détournent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, se détournent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, posez-vous la question, chaque croyant doit se poser la question de façon sincère. Peut-on espérer après cette victoire? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Prenez garde, ceux qui enfreignent les ordres de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أَنْ تُصِيبَهُ فِتْنَةٌ. Ces gens risquent d'être frappés par une épreuve. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ou alors un dur châtiment va les frapper. L'exemple de la Sira, la bataille de Uhud par exemple. La bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné l'ordre à plus ou moins 70 archers de rester sur le mont, donc le mont près de la mort de Uhud, en leur disant restez là, restez placés, ne bougez pas. Écoutez bien. Et la première partie de la bataille de Uhud a été remportée par les musulmans. Ils ont réussi à mettre donc en déroute al-Mushrikoun, les polythéistes. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé après cela? Ces 70 archers qui étaient sur le mont, sur ce mont, cette colline, lorsqu'ils ont vu cela, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit restez, ne bougez pas, restez là, vous devez rester là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, pourquoi on doit rester là maintenant? Allez, nous aussi on descend. On descend, on va rejoindre les croyants, on va partager avec eux la victoire et on va prendre notre part de butin, al-Ghanaim. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils sont descendus? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont subi une défaite cuisante. Parce que Khalid ibn al-Walid, ce brillant général, mais quoi? Il est venu de derrière, par derrière. Et il a réussi à les avoir. Subhanallah, regardez. Désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le champ de bataille, qu'est-ce qu'elle a produit comme effet? Que dire de nous alors? Que dire de nous qui désobéissons au prophète tous les jours? Qui délaissons tous les jours sa sunna? Après ça, on s'étonne qu'Allah soit donné de l'aucune victoire. Après ça, on s'étonne que nous vivons dans un état d'humiliation, que tout le monde nous marche dessus, que la communauté n'a aucun respect, n'a aucune valeur. Et comme le disait justement ce poète, أَيْنَمَا اتَّجَهْتَ فِي بَلَدٍ وَجَدْتَ الْإِسْلَامَ كَأَنَّهُ فِعْلٌ مَقْصُودٌ جَنَاحَهُ. Il dit, où tu te rends, n'importe quel pays où tu t'orientes, dans n'importe quelle contrée, tu retrouves l'islam comme un oiseau dont on a coupé les deux ailes. Voyez-vous? Et ça donc, c'est, je conclue en rappelant que suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez, dans Sourate Al-Ahzab, la Sourate Al-Qualisée, vous avez dans la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Uswatun Hassana, un bon exemple à suivre. Liman kana yarjullahu wal yawm al-akhir. Pour ceux qui souhaitent rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qui souhaitent le jour du mois dernier, wa dhakara Allah kathira. Et qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment. L'imam ibn Kathir, rahimahou l'a dit sur ce verset, il dit, هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. Il dit, ce verset est un grand fondement dans le fait de prendre Muhammad صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah عز وجل, comme modèle. Dans ses paroles, dans ses gestes et dans toutes les situations. Donc accrochons-nous à sa sunna sallallahu alayhi wa sallam.
Et c'est ici bien sûr que nous arrêtons notre sujet. Wallah ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam.